Garbory, ses fêtes au cimetière.
Bien oui, c'est la suggestion de notre ami Mathieu, ses fêtes au cimetière, parce que ça peut être drôle aussi, la mort. En tout cas, on va en parler avec quelqu'un qui devient presque une spécialiste de la chose.
Oh, 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 oh!
Alors, vous l'avez entendu rire, c'est une actrice, c'est une autrice, c'est une metteuse en scène, c'est une animatrice. Et aussi, on la présente comme une vivante en quête de sens. Elle s'appelle Marie-Ève Perron et ça me fait bien plaisir de faire votre connaissance.
Pareillement.
En vrai. Marie-Ève, donc, vous êtes ici pour nous présenter le spectacle de Ta force de vivre, qui a quand même une bonne vie, là. Vous
oui.
avez commencé à le présenter, quoi, il y a 2-3 ans?
En pleine pandémie, en fait, en pleine sortie de
pandémie. Ça donnait bien?
Oui, ça donnait bien. Tout le monde avait peur. Ils se disaient, bien, est-ce que les gens vont avoir envie d'entendre parler de ça après ce qu'on vient de vivre? Puis là, je disais, bien, je sais pas quoi vous dire. Là, je veux dire, la mort était présente avant. C'est sûr qu'on on l'a eu d'en face, là, très fortement. Puis il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées pendant la pandémie par rapport aux rituels funéraires, par rapport à la perte d'un être cher. Je pense qu'il a traumatisé beaucoup de gens. Mais je me disais, reste que la mort, elle est présente avec nous. Puis,
oui, toujours d'actualité.
Exactement. Oui. Donc, les gens ont été présents. Fait que depuis, ça veut dire depuis juin 2021. Oui.
Et puis, il y a aussi un balado là, qui va être présenté à partir de vendredi, 1er
oui.
novembre. J'imagine que c'est pas innocent, là, parce que c'est la journée des morts. Hein,
exactement. Moi, je suis une fan de concept. Je me suis dit, novembre, c'est le mois des morts. Fait que c'est une bonne, c'est un bon moment de sortir un balado là-dessus.
Balado qui s'intitule « On va tous y passer ».
Eh oui!
Alors, oui, s'il y a quelque chose, justement, d'incontournable, d'indéniable, c'est bien la mort.
Oui.
On va tous y passer, comme le titre de votre balado. Et c'est la mort de votre père, Marie-Ève, qui vous a inspiré, qui vous a fait vous questionner sur la mort, la disparition, la finalité. Ça a donné donc le spectacle intitulé « De ta force de vivre », très beau titre, et ce balado. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques phrases de votre source d'inspiration, c'est-à-dire votre père?
Ben, en fait, mon père avait une double maladie dégénérative. Il y avait un Parkinson avec une dégénérescence cortico-basale. Fait qu'il avait comme pigé le bon numéro à la loterie.
Oui.
Donc, dans mon accompagnement, puis ça nous a tous frappés de plein fouet, cette nouvelle. On n'avait pas de... Il y avait personne qui était atteint de maladie dégénérative
dans
ma famille.
Il avait quel âge à ce moment-là?
64 ans.
Ah,
il venait tout
vieux.
Juste de prendre sa retraite. Ben non. Et donc, quand il nous a annoncé ça, ça a été donc un choc pour tout le monde. Puis on a essayé de l'accompagner du mieux qu'on pouvait là-dedans. Mais au fur et à mesure qu'il avançait dans sa maladie et dans sa dégénérescence, reste que moi, je n'arrivais pas à parler, on n'arrivait pas en fait à parler de la mort avec lui. On n'arrivait pas à nommer exactement tout ce qu'on traversait, tout ce qu'on vivait. Je trouvais ça très difficile. Je me sentais excessivement impuissante. Mon père avait extrêmement peur de la mort. Fait que de toute façon, il n'aurait pas voulu en parler. Quand il est décédé, on dirait que, puis je le dis dans le balado, moi, on dirait que le fait de l'avoir accompagné dans cette dégénérescence, il y a un endroit où je me disais, bien, je pense que je suis en train de faire le deuil de mon père de toute façon.
Ah ouais.
Je pense que ça va aller quand il va décéder, je vais être correct. J'avais l'impression que ça allait peut-être...
Mon deuil va être avancé.
Exactement. Ouais, ouais. Ça va me prémunir d'une peine. Je trouve que c'est une bonne chose, mais dans le sens où il est souffrant, il va être soulagé de ses souffrances. Mais en fait, quand il est décédé, c'est pas du tout ça qui s'est passé. D'abord, sa mort, elle a été, je l'avoue, là, légèrement traumatisante, c'est-à-dire très loin de tout ce que... On voit dans les films qu'on aime à se raconter, c'est-à-dire une
rien
belle
romantique.
Mort. Oh mon Dieu, une autre douce, légère. Son agonie a duré 10 jours. Pour vrai, ça a été très pénible à traverser. Puis je me disais, mais quelle injustice! Comment c'est possible d'avoir une vie aussi riche, aussi foisonnante? T'sais, mon père était un bon vivant, de ta force de vivre, c'est lui. Là. Il soulevait 8 montagnes en même temps. Comment c'est possible de terminer comme ça? Donc, ça m'a laissé dans une puissante quête de sens par rapport à ma vie à moi, par rapport au sens de la vie. Puis, après ça, je me suis retrouvée dans mon deuil entourée de silence, incapable de parler de ce que je vivais, incapable de m'expliquer même ce que je vivais. J'avais
Pourquoi?
Peur. Ça crée énormément de malaise hein, de dire « mon père est mort ». Moi, je suis mal à l'aise, l'autre est mal à l'aise. On n'a pas de temps comme endeuillé dans notre société aujourd'hui pour digérer notre peine. On retourne travailler le lendemain matin. Moi, je tournais là, 2 jours plus tard.
The show must go on, la peine est là.
Elle est complètement là. Puis tu te dis, est-ce que je dois en parler aux gens autour? Mais là, tu te dis, ouais, mais là, si je dis, j'ai enterré mon père samedi, ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Fait qu'on se tait. Puis je me disais, hey, s'il y a bien une expérience qu'on sait qu'on n'aura pas le choix de traverser dans la vie auquel on va devoir se confronter, c'est bien l'expérience de la mort.
Ouais.
Comment ça se fait qu'on manque J'ai si peu d'outils dans ma petite boîte à outils pour m'expliquer ce que je vis, pour expliquer aux autres ce que je vis. Pourquoi il y a autant de malaise? Pourquoi il y a, c'est si difficile d'en parler? J'ai pas pu en parler avec mon père. J'ai-tu bien fait, pas bien fait?
Plein de questions, oh, mon Dieu. Plein de malaise.
Fait que ça a été ça, j'ai envie de dire, l'impulse de départ. C'est-à-dire, j'ai fait, hey, moi, là, je pars avec mon petit flambeau, puis je vais essayer de trouver des réponses à cette quête de... Mais pourquoi on parle plus de la mort? Pourquoi c'est aussi tabou? Est-ce qu'il y a moyen de s'outiller davantage? Est-ce qu'il y a des clés qu'on peut me donner pour... mieux vivre, en fait, parce que c'est ça aussi, c'est ce que ça crée d'avoir peur de la mort, moi, je pense, puis de la cacher, puis de pas vouloir la voir. Je pense que c'est quelque chose qui peut nuire même à son vivant. Tu sais, le fait de pas être capable d'y penser, ou de c'est angoissant, en fait, de penser mourir, c'est angoissant cet inconnu de la mort. Donc, je pense que de s'outiller, de juste se donner la possibilité, en tout cas, de l'aborder sous différents angles, moi, je pense que ça aide à vivre.
Et justement, il y a une des intervenantes du balado, on parlera du balado un peu plus en détail, mais c'est parce que je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit. Elle s'appelle Renée-Anne, elle dit « on n'est pas permanent et d'en prendre conscience, c'est un cadeau ».
Oui, ouais. Effectivement, Renée-Anne Blais, qui est une doula de la mort. Donc, elle accompagne les gens. Mettons, on est avec son parent ou on a quelqu'un dans notre famille qui va mourir et on ne sait pas quoi faire. Bien, elle est là, on peut l'appeler et puis elle va nous accompagner. On dit doula ou accompagnante, c'est avant le deuil même, ouais, elle peut nous accompagner ensuite dans le deuil. Donc ça, c'est un service qui existe aujourd'hui.
Mais est-ce
2024.
Qu'elle étudie pour faire ce qu'elle fait?
Oui, tout le monde a des formations. Okay. Là-dessus, on ne se lance pas. Effectivement. Non, mais c'est important de le dire. Là. Si quelqu'un disait, ben moi, je m'improvise doula de la mort.
Coach de mort.
Non, allez-y.
Coach de vie, coach de mort.
Appelez pas cette personne. Les gens sont formés normalement et certifiés.
Alors, de ta force de vivre et le balado, est-ce que ce sont deux projets qui se font écho? J'imagine que oui, ça parle de mort, mais sur la scène, comment s'exprime?
Bien, je dis toujours que ces deux projets, à la fois... le balado, c'est un projet qui est à la fois complémentaire et indépendant du spectacle. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir vu le spectacle pour apprécier ou écouter le balado.
Et vice-versa.
Exactement. Mais moi, dans ma... C'est parce que le spectacle, donc, c'est une autofiction. Hein, où je raconte ce que j'ai vécu par rapport à mon père. J'exagère évidemment certains pans de ma vie parce que sinon, ça serait pas drôle.
Et vous êtes une comédienne.
Voilà, exactement. Donc, au fur et à mesure, quand j'écrivais le spectacle, je me disais, je veux pas que ça soit juste une série d'anecdotes. J'ai envie d'avoir justement cette idée de créer une boîte à outils. J'ai envie d'aller à la rencontre de spécialistes, de gens qui étudient la mort, nos rapports à la mort, notre rapport au deuil. Et j'ai rencontré plein de gens, notamment Luce Desauniers, qu'on entend dans le spectacle d'ailleurs. C'est pour ça que je dis qu'il y a une petite portion documentaire. Mm-hmm. Et puis, c'est des paroles qui sont tellement apaisantes, qui font tellement bien. Puis je me disais, au fur et à mesure de l'écriture, quand j'interrogeais ces gens, je me disais, wow, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas accès à tout ce savoir. Et de là, donc très tôt dans la création, même dans l'écriture du spectacle, m'est venue l'idée de dire, parce que je dis tout le temps, je pensais pas, là, c'est pas parce que je pense qu'on a besoin d'un balado supplémentaire, je sais qu'il y en a plein, mais je me disais, moi, pour aller au bout de ma démarche, je sens que j'ai besoin de créer cet outil audio qui va me permettre, parce que sur une scène, hein, on est tenu par une certaine dramaturgie, j'ai envie de dire, là, je peux pas faire un opus de 12 heures sur la scène où je vais parler du deuil puis de la mort, faire entendre toutes ces voix. Donc, la série audio me permettait de rentrer plus profondément dans le sujet. C'est des épisodes qui durent une heure. Il y en a 5 à travers chacun de ces thèmes. On décortique un thème à chaque fois. Donc là, ça me permet, j'ai le temps, là, tu sais, vraiment d'exposer tous ces points de vue, toutes ces paroles aussi à laquelle j'ai eu accès en cours d'écriture.
Et si je reviens quelques secondes là, sur le spectacle, les commentaires des spectateurs et qui est dans la salle? Est-ce que ce sont surtout des endeuillés?
Bien, je pense qu'il y a des endeuillés, il y a des gens qui s'interrogent sur la mort, puis il y a des vivants aussi qui ont juste envie de venir voir un spectacle. Puis qui
parce qu'on est tous des morts
ça.
En vacances, comme le disait Luc Plamondon.
Ah, c'est bon ça, mon Dieu, je la connaissais pas celle-là.
Le soleil brille en Asylène, c'est la chanson de Nanette Workman.
Oui, franchement.
Oh, on pourrait la mettre après.
Ben oui. Maintenant qu'on la met en contexte, c'est vrai. Ben, je pense que ce qui ressort le plus, là, on est à plus de 50 représentations. du spectacle. Je pense que les gens ont souvent peur de venir voir le show. Ils ont peur de trop pleurer. Ils ont peur que ce soit lourd. Moi, je dis tout le temps, c'est la quête d'une vivante. Donc, j'ai pas écrit un spectacle. J'ai pas fait ce spectacle-là pour qu'on ait envie d'aller se tirer dans le caniveau à l'issue de la représentation. c'est le contraire. Même, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est que les gens se sentent apaisés. Ça me fait vraiment plaisir parce que moi, j'étais pas du tout apaisée après le décès de mon père. J'étais excessivement angoissée, en fait, par rapport à ma propre fin de vie. Quand quelqu'un décède, en fait, la mort, elle se rapproche d'un pas vers nous. Puis là, tout le sens de notre vie, notre existence qu'on fait... Moi, je suis hypochondriaque de nature, mais là, mon hypochondrie a atteint des sommets. Je ne vous raconte pas.
Ça doit.
Fait que c'est ce qui revient le plus souvent. C'est comme une catharsis. On rit dans le spectacle. Je raconte toutes sortes d'anecdotes, de moments absurdes que j'ai vécu. Tu sais, je dis tout le temps, le comique et le tragique, là, ça marche main dans la main.
Absolument.
Puis dans l'expérience de la mort, le salon funéraire, la cérémonie funéraire, les commentaires des gens... Hey, ça, là, c'est un florilège d'anecdotes.
Est-ce que vous jouez différents personnages?
Oui, il y a toutes sortes de personnages que je rencontre. Puis il y a 576 cues de son envoyés en direct dans le spectacle. Fait que c'est comme une petite...
Le régisseur ou la régisseuse doit être vraiment à l'affût.
Oui, Andrea Marcelleroy, une précieuse collaboratrice. Sans elle, je ne serais rien. Et elle envoie tout ça. T'sais, c'est un faux solo, dans le fond. Parce que c'est comme si c'était mon personnage. C'est ma partenaire de
la
jeu,
réplique.
En fait. Exactement.
Oui, oui. Okay.
Fait que c'est des répliques qui viennent tantôt, c'est moi, qu'on entend, c'est des répliques que c'est comme si on était dans ma tête. Puis ça me permet aussi de faire exister plein de personnages. La dame du salon funéraire, ça me permet de faire entendre le saisonnier.
Mais il faudra voir le
musique.
Spectacle.
Oui.
Vous partez en tournée en 2025, il y a quand même quelques représentations, là. Oui. J'ai vu ça circuler.
Oui, on va être à Baie-du-Fèvre, Waterloo et Saint-Hyacinthe, qui est ma ville d'origine.
Ah bon?
Mon père vient de là, ma famille est toute là-bas encore, donc on termine ça à Saint-Hyacinthe le 10 avril.
Vous êtes une Churchill gentillée. Le gentilé des personnes qui vivent à Saint-Hyacinthe.
C'est les Mascoutins.
Oui,
faut le savoir.
Vous êtes faut le savoir.
C'est à cause de la rivière Yamaska. Tout le monde est comme Saint-Hyacinthe, Mascoutins, quoi?
Oui, voilà. C'est quoi le rapport? Oui. C'est comme les gens qui vivent à Valleyfield, qui sont nés à Valleyfield, ce sont des Campy-Valenciens.
Oh mon
oui,
Dieu!
Il faut le savoir aussi.
Oui, je vais me coucher moins niaiseuse, merci.
Alors, Marie-Ève Perron, donc, vous le disiez tantôt dans votre balado, vous abordez différents angles, vous rencontrez plusieurs invités, plusieurs intervenants. Il y a 5 épisodes en tout?
Oui, 5 épisodes. Donc, le premier, c'est sur le
tabou
de la mort.
Parce qu'il y en a des tabous.
Ah, mon Dieu, il y en a plein. Mais ce qu'on découvre, en fait, que moi, Luce Desaulniers m'a appris, c'est que le tabou n'est pas nécessairement une mauvaise chose.
Ouais.
C'est-à-dire, en 2024, le tabou est lié vraiment à quelque chose qui nous...
Qui nous échappe.
Exact. Ben, en fait, c'est une limite, c'est une barrière. Puis on n'aime pas ça en 2024, hein, au 21e siècle, les barrières. On est comme, faut tout transgresser, faut tout dire, faut tout montrer, faut tout exposer. Puis là, ça ramène une notion où elle dit, mais c'est bien aussi qu'il y a des limites, il y a des tabous, en fait, qui protègent. Par exemple...
Puis la mort, c'est mystérieux aussi. Là, on
exactement.
Peut pas tout savoir de la
non.
mort.
Ouais. Puis il faut l'accepter. Luce dit de savoir comment nos parents nous ont conçus. C'est pas... On n'a pas besoin d'avoir ces détails-là.
Non.
Je trouve que cette exemple est éloquent. Et donc, effectivement, et donc, ça, c'est un tabou, en fait, qui nous protège. Moi, j'ai pas besoin d'avoir ces images mentales-là de mes parents.
Non, moi non plus.
J'ai pensé, j'aime pas ça. Donc,
alors,
voilà.
Le tabou, ça, c'est le premier épisode
exactement.
Qu'on va pouvoir entendre. Toute la série va être disponible à partir du 1er novembre?
Non, le premier épisode va être disponible le 1er novembre, et ensuite, il va y avoir un épisode disponible à chaque semaine du mois de novembre, le mois des morts.
Oui.
Puis ça va se terminer au 1er décembre, en fait, qui est la date anniversaire de mon père.
Ah,
je suis
oui.
très concept dans mes
oui,
affaires.
Oui, tout à fait.
Mais je trouvais ça, parce que c'est ce que je dis qui est extraordinaire au final quand je pense à ça. Donc, mon père est mort en 2016. On entre, ça va faire, mon Dieu, 8 ans. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que cette mort horrible, hein, parce que j'ai pas d'autres mots pour la décrire, qui m'a laissé avec tant de colère, de questions, d'inconfort. Si mon père m'avait offert une mort extraordinairement douce et sereine, ben j'aurais pas fait tout ça.
Non.
Ça de puis je disais dans mon mot justement quand on l'a joué à la Licorne au théâtre La Licorne en 2021, je disais j'avais écrit à mon père, je disais d'imaginer que tu avais tout ça en tête. Mon père était un amoureux des arts, du théâtre, tu sais.
Quel était son prénom?
Roger Perron. Il adorait le théâtre. T'sais, c'est vraiment, il adorait la musique, tout ça. Je me dis, puis il m'accompagne tout du long de cette création. Il m'accompagne encore aujourd'hui. Je me dis, ah, l'idée qu'il savait déjà tout ça. T'sais, on aime ça, faire du sens avec les
choses.
Oui,
oui, oui.
Mais il y a quelque chose qui me charme, en fait, dans cette idée. Je trouve ça excessivement poétique de me dire...
Cette mort atroce a été quand même porteuse.
Ah ouais, et génératrice de tellement, en fait, d'outils qui me sont extrêmement utiles. Moi, je trouve que je vis mieux ma vie depuis que j'ai eu la chance d'avoir accès à tous ces savoirs-là, en fait, de tous ces spécialistes qu'on interviewe dans chacun de ces 5 épisodes. Puis ils sont tous différents, là, dépendamment des thèmes qu'on aborde. On en a un sur le rituel funéraire, l'industrie funéraire. On en a un sur le deuil, qui est une bébite vraiment pas évidente à apprivoiser. On en a un sur l'aide médicale à mourir, mais aussi sur l'ambivalence émotive, une chose qu'on oublie encore de nos jours.
L'ambivalence émotive.
Oui, on accepte. Luce nous ramène l'idée du concept de l'ambivalence. Ça, c'est une chose qui me fait énormément de bien. Moi, je suis ascendant balance. Hein, je mets tout le temps ça sur le dos de « Ah, je sais pas, je sais tu, mais... » Puis je peux être traversée par 42 émotions contraires dans une même journée. Puis elle nous dit « Mais c'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain. » Mais aujourd'hui, on vit dans une société qui veut du tranché, qui veut blanc ou noir, qui veut de l'opinion, qui veut du catégorique. Puis quand on dit « je ne le sais pas », on associe ça souvent à quelque chose de négatif, c'est-à-dire...
Et pourtant,
c'est hyper important.
C'est le début de quelque chose, d'une belle aventure.
Et l'ambivalence émotive est intimement liée à la mort et à la vie, en fait. C'est-à-dire, on peut avoir et avoir à la fois un soulagement et avoir de la peine et avoir du regret et être soulagé, en tout cas. Tu sais, tout ça se côtoie. Puis le 5e épisode, c'est sur la spiritualité, en fait. Comment, son grand sens large, c'est-à-dire parler de l'après, de la mort. Est-ce que c'est important d'avoir des croyances? Quelle place ça prend aujourd'hui dans nos vies?
Parler de la vie après la mort? La possibilité d'une vie après la mort?
Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se soulager? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une spiritualité? Si on n'est pas croyant.
De croire, d'avoir la foi.
Voilà. Puis qu'est-ce que ça a comme impact si on n'est pas croyant?
Ouais.
Puis à travers chacun de ces épisodes-là, je vais toujours à la rencontre de spécialistes, mais aussi de paroles plus intimes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des particuliers, là, des gens comme vous et moi, qui vont venir nous partager un événement qu'ils ont vécu qui est en rapport au thème. Fait que c'est cette espèce de pluralité de points de vue,
de
en
voix.
Fait.
Comment vous les avez trouvés, tous les intervenants, les invités de votre
moi,
balado?
Moi, j'ai une fidèle collaboratrice dans ce podcast. Elle s'appelle Laurence Régnier. Elle était aussi ma collaboratrice dans De ta force de vie. Je ne serais plus rien sans elle. C'est l'extension de mon cerveau.
Une autre?
Ah, elle est extraordinaire. Ouais. Une autre. Je suis super bien entourée, il faut le dire, là. Et donc, Laurence et moi, on fait des recherches, en fait. On part sur les 5 sujets qu'on a pris. On a essayé d'aller chercher des paroles qui faisaient du sens pour nous avec des angles où on se dit, ah, ça va être intéressant d'avoir cet angle-là, ça va être intéressant de faire entendre cette parole-là. Puis l'idée aussi, c'est jamais de donner une opinion. C'est-à-dire, moi, je veux pas diriger la pensée de l'auditeur. On essaie d'exposer vraiment une pluralité de paroles. Ça se peut que dans un même épisode, je sais pas, moi, par rapport à l'aide médicale à mourir, ben quelqu'un soit
contre
ou dise, moi, j'ai des réserves, puis qu'un autre dise, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Le but, en fait, c'est d'explorer le sujet, de se donner le droit de se donner du temps, puis de se donner le droit, en fait, de se déposer dans chacun de ces sujets-là.
Et Marie-Ève Perron, est-ce que vous avez décelé ou remarqué un point commun entre toutes les personnes qui ont participé à votre balado, là, qui sont finalement des gens sensibles par rapport à la mort?
Ce qui m'est revenu le plus souvent, c'est... Les gens disent, on travaille dans le monde du mortuaire ou du funéraire, où on côtoie la mort tous les jours, où j'ai traversé l'expérience de la mort, et tout le monde dit, on se sent excessivement vivant dans ce métier-là. Que ce soit les gens au salon funéraire, on est allé faire une visite de salon funéraire, nous autres, pendant 2 heures de temps. On s'est dit, qui va faire ça, une petite visite de salon un dimanche pour comprendre comment ça marche? Nous autres, on l'a fait! Mais les gens du salon funéraire, les gens qui étudient la mort, les psychologues et les gens aussi qui ont traversé la mort, qui étudient le rite funéraire, ils disent tout ça.
Ouais, hein?
D'accepter de côtoyer ou d'aborder ce sujet qui fait si peur, et je le comprends moi-même, j'ai peur de la mort, malgré tout ça. Mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup à vivre...
À être dans la vie.
...mieux mon vivant. Oui, ouais. Je me sens beaucoup plus... C'est comme si ça m'avait... Ça avait enlevé une couche de complexité à ce que c'est la vie humaine. C'est complexe, vivre. Et une fois qu'on le comprend, en fait, on dirait que de comprendre ce que c'est l'expérience de la mort ou d'accepter de la regarder, on accepte qu'on est des êtres complexes, on accepte l'ambivalence, on accepte d'avoir peur, on accepte de pas accepter de vouloir mourir. Là, ça le dit, il faut arrêter de nous dire d'accepter qu'il faut accepter la mort. Ça se peut qu'on ne l'accepte pas, c'est tout à fait normal. On a une pulsion de vie, de ta force de vivre, on a une pulsion de vie en nous. Ne pas l'accepter, c'est normal, tu sais.
Et j'entendais, je pense qu'il était au micro de Monique Giroux en fin de semaine, Tire le coyote, qui a dit « Vivre, c'est peut-être apprendre à mourir ».
Ben oui, c'est ça.
C'est pas mal,
c'est
ça,
beau.
Hein?
Ben moi, je dis « Vivre, c'est aussi mourir un peu ». Fait qu'on est dans le... Oh, je l'aime tellement, Tire le coyote.
Oui,
tellement extraordinaire.
Ben là, on a fait le choix de se laisser avec la chanson de Nanette Workman.
Ah, ben oui!
Qui parle des morts en vacances. Ça a été vraiment un grand plaisir. C'est très riche comme conversation. J'ai bien aimé vous entendre, Marie-Ève Perron.
Merci.
Parler de ce balado. On va tous y passer, disponible à partir de vendredi.
Sur et toutes aussi... les plateformes.
Toutes les plateformes.
Toutes les plateformes.
Et puis, de ta force de vivre sur plusieurs scènes, dont celle de Saint-Hyacinthe, là où vous êtes née.
Et Baie-du-Fèvre.
Merci, Marie-Ève.
Ah, c'est moi. Merci beaucoup de m'avoir invitée.